Donc nous reprenons avec Jean-Claude Jorgensen et Michel Longuban, qui sont parmi les animateurs, peut-être même les fondateurs d'ailleurs, de la liste à Greglet.
Parmi d'autres.
Parmi d'autres. Et qui vont nous parler donc de cette expérience. Alors que peut-être pour le coup, tout le monde ne connaît pas dans la mesure où c'est assez, il y a un public assez spécialisé quand même, hein, de préparationnaires de l'application de lettres. Mais vous voyez en revanche qu'on reste parfaitement dans notre sujet général. Il s'agit bien de lettres et il s'agit bien d'Internet et c'est francophone puisqu'il s'agit de l'agrégation de lettres. Donc je vous donne la parole pour cette présentation.
Bonjour, merci à ceux qui font que le colloque est chaleureux et nous accueille. L'intitulé contient quatre mots qui vous préviennent du menu, du programme. Agrég-lettres, c'est bien l'agrégation de lettres dont une part de la préparation est prise en charge par une liste de discussion et un site. Esprit, ça peut être l'occasion de tas de jeux de mots, mais même si ça n'apparaît pas dans ce qui est là, dans vos papiers, ça devrait porter une majuscule. C'est aussi un singulier. On va essayer de voir ce qui se cache derrière cette expression esprit de la liste. Et puis liste, qu'il faut entendre comme liste de discussion privée et modérée, associée à un site. Donc il n'y a pas de jeu de masque. On va avoir des gens qui choisissent de travailler ensemble. Et Michel et moi allons essayer de parler d'une même voix, parce qu'en effet, nous ne sommes que deux des personnes qui ont fondé la liste il y a maintenant 5 ans et demi. Et on aurait pu être remplacé très facilement par quelques autres personnes. Donc c'est pas avoir de l'esprit, c'est pas un esprit de cours, c'est un esprit de partage. Et alors que Michel et moi, nous nous sommes vus pour la première fois physiquement que samedi dernier. Alors, ce fruit d'un travail collectif, on va essayer de le présenter fidèlement. Nous sommes des porte-paroles. Et au départ d'Agrég-lettres, il y a une idée très simple, la littérature se partage. Une question plus inquiète, c'est que lorsqu'on est enseignant à plein temps, c'est pas très facile de se préparer à ce concours, difficile. Alors comment faire? Éric Opneau, qui n'est pas là, mais à qui on a téléphoné hier, qui est celui qui a créé la liste de discussion pour la première fois le 27 mai 2000, avait défini en novembre dernier, dans un courriel au président du jury de l'agrégation, Jean Jordi, avait défini sa liste de la façon suivante. Lorsque j'ai créé cette liste il y a plusieurs années, je pensais que l'espace d'Internet était sous-exploité en ce qui concerne les travaux de groupe, échanges entre enseignants, préparation au concours. Pour moi, c'était le moyen de regrouper des personnes qui étaient souvent très éloignées des universités et des IUFM, demandeuses de formation, alors que celles-ci sont dans certaines académies de plus en plus réduites. Alors on va voir dans quelques minutes le premier document. C'est le premier message envoyé par Eric sur cette liste le 27 mai 2000. Et on lira ensemble certains paragraphes parce que tout était... ce qu'on appelle l'esprit de la liste, tout était déjà là. Il avait vu juste avec un peu d'avance, mais on va voir aussi que c'était une date où les esprits étaient prêts. Pour ma part, pour Michel aussi, pour la plupart des abonnés qui sont des enseignants, il y avait cette idée qu'enseigner aussi, c'est partager, c'est faire partager ce qu'on sait, c'est se prêter à une passion pour la littérature, faire partager une passion. Or, la littérature n'est vivante que si elle a des lecteurs et que ces lecteurs échangent sur ce qu'ils ont lu. Et donc, Michel a raison, c'est bien au carrefour de la discipline lettres de la technologie Internet et de la collégialité, de la mutualisation que notre travail se situe. Tous ces truismes sont à l'origine de ce que le groupe appellera très vite l'esprit de la liste, avec comme figure titulaire celle d'Éric. Mais pour ma part, il y a eu un petit moment où les gens se sont trouvés sur une autre liste, un petit peu plus ancienne, Profel, ont découvert qu'ils avaient intérêt à en créer une spécifique, à Greg Lettre. Pourquoi ? Parce que les échanges par disquette et par Minitel étaient beaucoup trop exigus. Pour ma part, en septembre 1995, je préparais l'agrégation interne. Quand j'ai proposé d'échanger des leçons et des explications par des disquettes, j'ai trouvé un mur, un refus. Et donc quand en 2000, 5 ans après, 4 ans et demi après, quand j'ai lu cet appel, j'ai répondu présent avec quelques autres, et les choses se sont faites naturellement toutes seules. Aujourd'hui, 18 août, enfin mes chiffres sont du 11 août 2005, c'est donc 33 259 messages qui ont été échangés, 3550 fichiers déposés, mais chaque année il y en a une bonne partie qui disparaît pour faire de la place, et le programme d'œuvre a changé, enfin vous verrez qu'il en reste de l'année dernière. Deux sondages, un sondage fait le mois dernier auprès des 25 agrégés qui sont restés, les 25 abonnés devenus agrégés dans les 5 dernières années, qui sont restés pour aider. Non, il y en a. Non, je pense qu'il y a 3 fois plus de personnes, environ 16, 17 par an, 5 fois, ça fait combien ? 80. Hein. Il y a plutôt 85 personnes devenues agrégées, parmi lesquelles 25 sont toujours abonnées, parce qu'elles sont devenues propriétaires, modératrices ou coordinatrices. Alors on les retire des 80. J'avais 84 abonnés le 11 août. Là, il devrait y avoir marqué 81 ou 82, on verra. Parce qu'il y a eu des désabonnements, mais de personnes qui risquent de se réabonner. C'est très instable. D'un jour à l'autre, ça varie. Il y en a qui changent d'adresse email, alors ils en ont deux. Et il n'y a pourtant qu'une personne, et puis il y a l'inverse. Donc deux sondages. Un auprès des abonnés devenus agrégés, et un autre auprès des 84 à propos du forum. Mais ils se sont exprimés. Que le forum fait problème, on vous dira pourquoi. Ensuite, Agréglette a déménagé au bout de 2 ans, si bien qu'il y a 2 adresses, 2 URL. Et puis, Agréglette, l'année dernière, a incité certains des abonnés à créer une autre liste, un autre site qui s'appelle Dialettre. En général, c'est les gens qui ont quitté la liste, justement parce qu'ils étaient agrégés en général. Et Dialettre aussi a déménagé récemment. Si bien que j'ai consulté 4 sites, 2 sondages, on va dire 34 000 messages, parce que même 35 000 parce qu'il y a les messages privés aux modérateurs. Les 2 textes qui servent de charte, la page d'accueil, mais aussi un texte qui est envoyé à chaque nouvel abonné, qui s'appelle site mode d'emploi et qui fait 8 pages. Tout ça, ce sont les documents qui nous ont permis de vous faire une petite communication. Alors Michel va chercher sans doute à vous mettre sous vos yeux la table des matières. Je vais essayer de faire un historique, de compléter cet historique. Encore que je l'ai fait un petit peu, l'historique. Vous avez la table des matières. Donc successivement, vous découvrez qu'on va vous expliquer le fonctionnement à nous deux, les rôles à tenir. Puis on essaiera de dire un mot sur nos rapports avec l'institution, autant côté corps d'inspection qu'université. Un mot sur les enjeux professionnels, puisque la plupart des abonnés enseignent. Quelques leçons sur l'évolution pendant 5 ans et demi. Des enjeux éthiques et littéraires, autrement dit un essai de définition de cette liste de discussion atypique, et puis pourquoi à l'avenir On a des décisions à prendre, on a des problèmes à régler, mais on a aussi des espoirs, puisque d'autres listes ont pris le même chemin et puis sont mortes. Et la nôtre est pérenne, c'est-à-dire qu'on a des raisons de penser que même si Eric ou Michel ou moi nous désabonnons, ça va continuer. Alors pour l'historique, on pourrait dire que, en dehors du déménagement au bout de 2 ans, de l'évolution technologique, chaque abonné ayant acquis une machine plus rapide, un ADSL plus rapide, un nombre de messages qui augmente d'année en année, un nombre de fichiers déposés qui augmente, la qualité des contributions qui augmente, les règles qui s'affinent mais qui ne sont pas changées fondamentalement dans leur esprit. Oui, j'ai oublié de dire que le déménagement était dû à un site trop petit, c'était Yahoo, 20 mégas. Alors on a commencé en utilisant des extensions, un petit lien HTML d'un kilo renvoyé dans un site créé par François Collard ou moi, où étaient déposés les fichiers les plus gros, mais au bout de 2 ans, même en déposant en TXT, c'était devenu impossible. Et par chance, le comité réseau des universités, le CRU, a bien voulu nous héberger. Ce déménagement a eu lieu pendant l'été 2002. Nous sommes toujours hébergés par CRU. Et sans doute, à l'avenir, il faudra à nouveau déménager pour avoir du PHP et un peu plus que 350 mégas. Bon, pendant cet historique de 5 ans, on pourrait dire aussi qu'il y a eu des liens hors liste, physiques ou virtuels, qui se sont des amitiés, des extensions comme le forum qui a dû se créer pour ne pas que les messages saturent les boîtes de réception de tout le monde. Et puis, une meilleure indexation, hein, que ce soit dans les annuaires et même dans les rapports de jury. Et puis j'arrive tout de suite au fonctionnement et au rôle. Alors je vais vous parler des abonnements très vite, puis Michel continuera. Alors je vous donne quelques chiffres. Le 17 avril, bon, on va dire que entre le 27 mai 2000, jour J, et la fin de l'été, bon, dans les 3 premiers jours, il y a 15 personnes tout de suite. À la fin de l'été, il y en a bien 40. Et quand Eric, je me souviens qu'il a arrêté les abonnements vers le mois d'octobre, je pense que tu confirmerais, on devait être une bonne cinquantaine. Mais une des règles qu'il avait fixées, on va le voir dans le premier message du 27 mai, qui est toujours la règle des règles, en fait il n'y en a qu'une, c'est celle-là, c'est la lettre de la liste, c'est on dépose chacun une contribution chaque mois. Alors évidemment, contribution, c'est un mot fourre-tout qui veut dire ni la prise de notes bâclée illisible, ni la leçon qui mériterait d'être publiée dans un livre et qui serait faite en 15 ou 20 heures. Donc c'est intermédiaire, c'est quelque chose qui va rendre service à tout le monde, mais qui est le fruit d'un vrai travail aussi, qui fait qu'on s'est investi et qu'on mérite de rester abonné. Et donc au mois d'octobre 2000, cette règle sévit, et tous ceux qui n'ont pas pu rendre, donc juin, juillet, août, septembre, 4 contributions, sont désabonnés. À Noël, je pense qu'il n'y a plus que 40 abonnés. Et après l'écrit et l'oral de la première session de gens préparés à l'agrégation par agrégue-lettres, ils sont 39. Le 17 avril 2001, on pourrait le vérifier tout à l'heure dans le site Yahoo, il y avait 39 abonnés, comme quand tu as dû arriver à peu près. En mai 2002...
Excuse-moi, il y a une distinction entre agrégue externe et agrégue interne.
Alors non, on va vous en parler après. En fait, c'est le paragraphe qui suit. Hein. Donc je termine les chiffres d'abonnement, puis je vais répondre à la question Henri qui est très importante. Au moment du déménagement, au moment où sur Yahoo on est 48, en mai 2002, le jour même, il y en a 44 qui sont en même temps sur CRU. Hein. Et ça, c'est le creux de la vague, hein, mars, avril, mai, c'est là où il y a le moins d'abonnés. Le 15 juillet, le nouveau programme d'œuvre est paru, on est 58. Le 22 octobre 2002, on est 70. Le 14 novembre, à peine un mois après, les désabonnements ont sévi, on n'est plus que 54. 1er octobre 2003, 58. 28 mars 2004, 52. 7 octobre 2004, 78. 2 janvier 2005, 67. 22 juillet 2005, 84. On peut prédire, sans risque de se tromper trop, qu'en octobre 2005, on ne sera plus que 70. J'ai envie de dire déjà un petit peu heureusement, parce que on sait par expérience que ça fonctionne de plus en plus mal si on est trop nombreux, au-dessus de 70. Alors j'en arrive à cette proportion du fait que les abonnés qui ont voulu la créer, la liste, en mai 2000, étaient principalement des profs en exercice, des certifiés. Le type de concours qu'ils cherchaient à préparer, c'était la grecque interne. Et pendant 5 ans, j'ai fait les calculs, la proportion, mais c'est vraiment à 1% près, d'internes, de gens préparant l'agrégation interne, c'est 80%, et ceux qui préparent l'agrégation externe, 20%. Il y a une autre proportion qui se maintient, qui est la même, 80-20, c'est moderne et classique. Cette année, on a une agrégative grammaire, si bien que c'est plus que 78 pour les modernes, 2% parce qu'il y a une agrégative grammaire, et 20% pour les classiques. Il y a 12 classiques actuellement abonnés. Vous rapportez ça au chiffre de 60 agrégatifs, parce qu'il y a 25 agrégés, ça fait 85. 12 divisé par 60, ça fait 20. C'est bien 20%. Alors j'ai volontairement mis les KRPA, qui sont le privé, dans les internes, puisque c'est le même concours. Alors maintenant, il y a un autre pourcentage géographique, celui-là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Chaque année, on a environ 8, 9, enfin ça dépend si vous voulez, si on vient de désabonner quelqu'un ou pas, ou 10 Français hors hexagone. Actuellement, il y a une abonnée à Tahiti, une à La Réunion, 5 à la Guadeloupe, enfin c'est pas actuellement, c'était mai-juin, au moment où on passait encore des épreuves de l'agrégation 2005. Et une en Inde. Ce qui fait 8 sur 56 égale 14%. Et ce pourcentage de 14-15%, il est constant depuis 5 ans. Là, simplement l'année précédente, c'était plutôt 4 à la Martinique et 1 à la Guadeloupe. Cette année, c'est 0 à la Martinique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Et 5 à la Guadeloupe. Mais les 14-15% sont constants. Or, je crois pouvoir dire que la part des tomes d'hommes ou des lycées français à l'étranger fait moins que 14% de la population française, franco-française. Là, on n'est plus dans les pays parlant français. Bon, dans les années précédentes, on a eu aussi Costa Rica, Mexico et Papeete Tahiti, un peu plus que 1. Martinique. Alors, je lis juste, avant de passer la parole à Michel, un message qui dit bien cette situation. De 5 novembre, Delphine T. Moi, je préférerais ne pas envoyer un devoir à Sévigné, c'est un collège qui prépare à la grecque, plutôt que de ne pas rendre une contribution et être désabonné, car la liste, c'est vital. J'ai besoin de mes messages tous les jours. Et puis surtout en Guadeloupe, la filière lettres s'arrête au DEUC et n'est pas à Pointe-à-Pitre, mais à Saint-Claude. Il y a une formation IUFM en interne, mais je suis en disponibilité et je ne peux pas en bénéficier officiellement. Les livres que je commande mettent du temps à arriver. Les commander à la FNAC par Internet, c'est super cher. Inutile de préciser qu'il n'y a pas de rayon à grec dans les librairies. Donc la liste est essentielle pour tous les trésors qu'elle apporte. Et puis j'ai l'impression de connaître des gens de partout, voilà. Donc voilà pourquoi il y a 5 abonnés de la Guadeloupe actuellement, et c'est comme ça tous les ans. Alors les dossiers.
Alors les dossiers, tu parlais à l'instant des contributions obligatoires. J'ai montré le message d'Eric qui expliquait la fameuse contribution. Donc la contribution, elle peut être de divers. Elle est d'abord du type exercice d'agrégation. On demande aux abonnés de la liste de préparer une leçon, une explication de texte, un point de grammaire, de préparer éventuellement une dissertation, sachant que, bien entendu, on fonctionne de façon collaborative. Il n'y a pas, aucun de nous n'est un enseignant. Nous ne faisons pas de l'enseignement à distance. Hein. Nous faisons une plateforme de travail collaboratif, ce qui est complètement différent. Donc le travail, les contributions sont évaluées par les pairs, qui estiment même que tel travail est intéressant et que tel autre ne l'est pas. Ce qui nous donne un espace que Jean-Claude est en train de vous montrer, un espace de documents partagés. Donc on a classé tout simplement par auteur ou par type d'exercice. Enfin, donc on a un dossier par auteur, on a un au programme, on a un dossier pour la fameuse épreuve de didactique de l'interne. On a aussi créé des dossiers pour la grammaire parce qu'on s'est aperçu que c'était quelque chose finalement d'abord de très codé et d'un petit peu particulier au concours de l'agrégation et que ça demandait vraiment un travail précis. Et puis, outre ces contributions, je dirais, de type canonique, il y a également une quantité de travaux qui sont proposés. Ça peut être des prises de notes d'un ouvrage critique, ça peut être des résumés, ça peut être des tableaux de synthèse, ça peut être des notes de cours, parce que les étudiants, enfin, ceux qui préparent l'agrégation ont été aussi étudiants dans une autre vie, et c'est l'occasion parfois d'aller chercher dans les greniers des cours qu'on a gardés, de reprendre ses notes, de remettre en forme. Ça peut être aussi des liens, puisqu'il y a par exemple une université sonore qui propose des cours enregistrés. Les cours, c'était Paris 10 qui avait initié, mais il y a plusieurs universités de France qui se sont associées. Et puis, ça peut être aussi des pages de liens qui sont faites par tel ou tel abonné, ou par des modérateurs, ou par des coordonnateurs, j'en ai connu quelques-unes, qui renvoient vers justement les ressources en ligne. On a parlé des textes littéraires en ligne, et bien évident qu'ils sont extrêmement utiles pour préparer l'agrégation. On a aussi tous les ans un lien vers la base de données, vers Frantex, puisqu'il faut savoir que Frantex, tous les ans, ouvre une base spécifique agrégation, c'est-à-dire qu'ils mettent en ligne sans abonnement tous les textes au programme de l'agrégation, donc qui sont numérisés et qui sont mis en ligne. Alors, en général, la seule chose qu'on peut regretter, enfin on est très content de les avoir, c'est qu'il faut attendre un petit peu. C'est-à-dire que en général, on commence à travailler le programme de l'agrégation au mois de mai. Il faut savoir que l'agrégation interne, on la passe le 1er février, ce qui est très tôt. Et souvent, on est obligé d'attendre le mois de novembre pour avoir Frantex disponible. Enfin, même dans ce court délai, puis après il y a la préparation de l'oral, c'est quand même extrêmement utile. Donc voilà les genres de contributions. Alors bien sûr, c'est classé dans des dossiers. Et pendant que je parle, Jean-Claude fait défiler une contribution.
C'est le sommaire du RAS.
Alors, on a également, parce que très vite, vous avez pu voir à l'écran, ces dossiers se remplissent très très rapidement. Là, on est parti dans les starting blocks, il faut dire quand même, au mois de mai, et on est au milieu août, et les dossiers sont déjà fort remplis. Donc, ça nécessite de faire tous les mois, et puis maintenant, c'est même plus tous les mois, c'est deux fois par mois, un sommaire des contributions. Alors, on en a de divers... là-dessus, il n'y a pas de normes, hein, on le fait comme on sait le faire, c'est-à-dire que un abonné est chargé, enfin en général on n'est pas tout seul, c'est deux abonnés ou trois, les coordonnateurs sont chargés d'élaborer ce sommaire. Alors seuls ils se débrouillent, entre eux ils tournent, enfin ils se débrouillent, et ils le font sous la forme qui leur est la plus familière. Bien souvent c'est sous forme texte. On essaye de faire en sorte que les liens soient hyperactifs, mais on peut avoir aussi un tableau un sommaire qui soit sous forme HTML, ce qui permet une plus grande interactivité et une plus grande rapidité. Alors ben voilà justement qui s'affiche le tableau des coordonnateurs. Donc cette année on a essayé d'obtenir deux coordonnateurs par j'allais dire par objet d'étude, mais ça c'est ma déformation de professeur du secondaire, je dirais par auteur ou quand même par objet. Et puis parfois pour certains auteurs qui sont très sollicités, comme Claudel, on a obtenu d'avoir quatre coordonnatrices, C'est même amusant d'ailleurs pour Claudel, c'est que il y a une collègue qui avait été abonnée l'année dernière, qui a échoué de très peu à l'admissibilité, c'est-à-dire qu'elle a frôlé l'admissibilité d'un point. Elle était extrêmement découragée et elle s'était désabonnée. Et puis moi, je suis restée en contact courriel avec elle. Et quand elle a su que Claudel était au programme, elle m'a écrit en disant. Ah, je ferais bien un travail sur Claudel et j'aimerais bien coordonner, faire quelque chose. Est-ce que tu crois qu'il reste une place? Et si oui, je me réabonne. Alors je lui ai dit, écoute, à mon avis, tu as encore 2 jours pour le faire. Et elle s'est réabonnée et c'est une des abonnées qui actuellement travaille le plus. Comme disait Jean-Claude, ce sont des enseignants, donc qui sont à la fois dans la préparation de leurs cours, dans leurs vacances avec la famille et dans la préparation de l'agrégation. Et moi, je reste parfois admirative de mon travail qui est fait par certains collègues. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait autant que certains quand j'étais sur la liste pour préparer l'agrégation. Bon, et enfin, voilà, le tableau de contribution. Donc, c'est un tableau également hypertexte. Qui est fait alors là par une collègue qui est plus spécifiquement chargée de ce travail qui est un travail de fourmi qui consiste à vérifier de façon finalement très très pointilleuse que chaque abonné a bien fait le travail qu'il prétend avoir fait, que ce travail a été validé par les coordonnateurs des différents dossiers et qu'il a été correctement mis en ligne. Quand on dit correctement mis en ligne, ça veut dire qu'on a demandé à chaque personne qui contribue de respecter un format de mise en ligne de sa contribution et notamment de le mettre sous format RTF parce que c'est le seul format qui soit portable et qui soit multiplateforme, qu'on puisse lire quel que soit le traitement de texte dont on dispose et quel que soit le système, l'OS qui soit installé sur la machine. Et puis, alors je sais bien qu'il y a différentes catégories de RTF, mais enfin avec le RTF, on n'a pas de mauvaises surprises. Et puis, autre demande, une codification, vous voyez, qui est la date, hein, au format mathématique, c'est-à-dire l'année, le mois, le jour. Ensuite, le nom de l'auteur de la contribution, le nom de l'auteur ou du dossier. Et puis enfin, une précision, le tout ne devant jamais excéder les 30 caractères. Parce qu'on a une autre contrainte qui est, on a frôlé une fois la catastrophe, donc on sait très bien qu'il faut absolument sauvegarder ces données, ces archives, et qu'il faut pouvoir graver des CD-ROM et que des noms de dossiers trop longs, des noms de seraient impossibles à graver, donc on impose tout ça. Alors ça crée parfois quelques pleurs et quelques grincements de dents en début d'année. Alors pour nous c'est pas le début de l'année, parce que l'année pour nous finalement elle commence au mois de juin, hein, les premiers abonnements commencent au mois de juin. Il y a des gens qui ne connaissent pas bien, qui connaissent très bien la littérature, beaucoup moins bien l'internet, encore moins les arcanes de l'informatique, et qui ont parfois un petit peu de difficultés, ce qui nous a amené à faire de l'accompagnement. C'est amusant d'ailleurs parce que au départ on n'est pas forcément un grand spécialiste de l'informatique, même si dans le noyau de départ il y en avait quand même un peu plus que dans la population, hein, un taux un peu plus super, un peu plus élevé, mais c'est vrai que petit à petit l'échange aussi de trucs informatiques s'est pas mal développé sur la littérature. Alors oui, dernière chose, effectivement, ce tableau est interactif, c'est-à-dire qu'en cliquant, on obtient directement l'accès à la contribution choisie. Donc là, le but pour nous, c'est bien sûr de faciliter le travail. Donc voilà, contribution qui vient de s'afficher. Enfin, toujours dans la même idée qui est de mettre en relation le plus facilement possible tous les abonnés de la liste, quelque chose donc qui a été fait d'abord par Jean-Claude de façon un peu sous format texte, et puis on a commencé à mettre quelques liens, et puis il y a deux ans je me suis dit que ça serait quand même beaucoup plus intéressant de le faire sous forme de page HTML interactive, donc on aboutit là à cette forme de l'annuaire des abonnés où on a le nom, le prénom, l'adresse postale, ce qui permet d'écrire très vite, hein, on peut écrire à n'importe quel abonné, de savoir quel est le type d'agrégation préparée, ou si la personne est déjà agrégée. Éventuellement, j'avais mis là une colonne pour le surnom, enfin le pour le forum, mais finalement c'est pas très très utile, c'est pas très consulté. Donc, voilà, ça, le profil, hein, et donc on a un lien vers les profils. Donc, quand on clique
sur la binette.
Alors quand on clique sur le nom d'abord, quand on clique là, sur le nom, faire. On obtient le profil. Hein, on peut avoir. Alors là, c'est aussi une des contraintes de la liste. Dans la mesure où cette liste est fermée à l'extérieur, à l'intérieur, il est interdit d'avoir des pseudonymes et de ne pas donner ses coordonnées. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être joignable à tout moment pour des tas de raisons, qui sont d'ailleurs fort bien comprises par les abonnés. Donc on donne nos numéros de téléphone, nos adresses, nos lycées, de façon à pouvoir effectivement travailler de façon utile. Et puis alors, on a ajouté, donc là ça c'est ton profil, mais c'est pas ton profil qu'on veut voir, c'est ta photo. Puisque, bon là c'était aussi dans l'idée de créer un petit peu de convivialité. C'était d'ajouter, alors si l'abonné le désire, hein, s'il ne le désire pas, on ne le met pas, d'ajouter une photo, de façon à ce qu'on puisse se connaître. Et ces photos ont eu... alors il y a des gens qui ne veulent absolument pas, il y a des abonnés qui refusent totalement d'être en photo, et même d'être prises en photo de peur qu'on puisse les voir. Et puis il y a ceux ou celles qui mettent volontiers leurs photos. On vient même d'avoir un album, puisqu'une de nos abonnées vient de se marier, on a donc même l'album du mariage quelque part. Enfin, on n'a pas mis l'album sur le site, on n'a pas les moyens. Donc on a mis un lien vers son album de mariage parce que voilà.
Voilà. On voit pas tes yeux.
Non, ben s'il y avait beaucoup de soleil, alors voilà. Mais j'en ai d'autres. Hein,
pas confiance.
J'en mettrai d'autres. Voilà, donc ces profils sont absolument obligatoires pour rester abonné. On vient d'ailleurs de désabonner quelqu'un qui n'avait pas déposé son profil. On lui a écrit, demandé, gentiment, très gentiment, encore une fois très gentiment. Et puis comme elle refuse, enfin ne répondait pas, elle ne déposait pas, on l'a désabonné. Parce que ça fait vraiment partie des règles du jeu de transparence. On a quand même été échaudés par un certain nombre de... au début, hein, dans les premières années, de personnes qui ne jouaient pas le jeu, en fait.
Alors là, j'ai un...
Alors voilà, la modération.
Tout à l'heure, il n'y avait pas de message à modérer, parce que depuis 3 jours, Michel et moi, tout en écoutant les conférences, on valide des messages. Alors ça, ce sont 2 abonnés...
de l'année.
Oui, qui sont là depuis 1 mois ou 2, mais on a tout à fait confiance en... On voit qu'elles parlent de toutes les deux de... Alors je crois que c'est pas du tout secret, hein.
Non.
C'est très très studieux, vous voyez. Et donc Naïma aussi hier, elle écrivait sur Claudel. Donc on va distribuer sans rechigner. Mais il arrive qu'on ait des spams, qu'on ait des virus même. Ou des messages un peu rugueux. Alors avant de valider, on prend contact avec l'émetteur, l'expéditeur, et on lui demande s'il est sûr si, de vouloir...
C'est bien ça que tu veux dire, tu veux vraiment le dire comme ça, parce que bon, c'est vrai que on est tous ici sur des listes de discussion, d'ailleurs on s'est tous connus sur des listes de discussion, et on sait à quel point les choses partent très vite sur les listes. Donc sur une liste où c'est vrai qu'au mois de novembre, par exemple, sur la liste, il y a la fatigue, l'angoisse, les gens qui ont du mal à faire front, parce qu'on a beaucoup de femmes sur cette liste qui sont mères de famille. Qui ont un enseignement à temps complet, qui préparent l'agrégation, qui doivent faire effectuer aussi des temps de transport importants. Donc on a un moment de fatigue, et c'est vrai que les humeurs s'échaufferaient assez rapidement, et à ce moment-là, c'est vrai que la modération devient extrêmement importante.
Je continue sur les messages, pas longtemps, mais là on voit bien que... Mais ils ne sont pas arrivés, hein, ils n'ont pas été encore archivés, il faut attendre 1 minute ou 2, mais on voit bien que... Naïma et... Qui était-ce? Sylvie Kessler, je ne sais pas. Ou Karine Risselin?
Ils sont là, tes messages, ils sont archivés.
Ah, je crois que je les mettrai après Mélina.
Non, ils sont là.
Ils sont déjà là?
C'est de là.
Et je vais prendre d'autres pages, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir la variété des objets de ces messages. Ici, manifestement, c'est Claudel et la didactique qui ont la primeur. Mais... Si on remonte page 17, on va voir
suis pas jeune, c'est pas grave.
Je suis pas jeune. Je suis au début de.
Tout début du mois.
Ah, je me suis trompé de. Bon, alors je vais remonter un petit peu. Ici, alors. Alors là, on a le cardinal de Ré, Platon, Marguerite de Navarre. Bon. Je te laisse si tu veux. Bon, par un petit panorama rapide, on peut dire que on va trouver l'humour et les encouragements d'un aîné qui va consoler, encourager et remonter le moral des troupes. Par exemple, juste après les cris, il y a un moment où on est un petit peu déprimé, ou bien on vient de recevoir un devoir noté de la faculté ou du CNED et on a eu une mauvaise note. On trouve des discussions sur des sujets littéraires et Michel va commenter quelques fils RSS. La réaction ponctuelle à une interprétation discutable lue dans une contribution, c'est-à-dire que si on mutualise, si les abonnés se lisent, c'est justement pour permettre d'avancer, nuancer, enrichir, voire changer d'avis sur des plans détaillés, des devoirs, des explications déposées. Ça peut être le rappel du modérateur à des règles impératives qui enfreignent la charte ou site mode d'emploi, ou pour le rappeler qu'on doit déposer dans un certain format, c'est RTF ou TXT ou PDF ou HTM, mais pas un autre, à un certain endroit avec une façon de codifier les titres que Michel a défini tout à l'heure. Les problèmes informatiques, alors on essaie d'aider ceux qui n'arrivent pas à se connecter, qui se battent avec un virus, qui ne sont pas reconnus par le serveur ou qui ont donné une adresse email qui n'est pas exactement la bonne, alors c'est le CRU qui ne reconnaît pas. Les informations pratiques, combien de citations mémorisées avant d'aller à l'écrit, où trouver un hôtel quand on est admissible, quels usuels trouve-t-on en salle de préparation, les résultats sur PubliNet, l'apparition des rapports de jury, les échos sur un livre destiné aux agrégatifs, ça peut être Kappa Greg, les nouvelles de l'amitié, alors on a droit aux naissances, et les bébés à Greg-Lettres, normalement, doivent déposer une photo d'eux, et on en a beaucoup. Les mariages, les gros pépins, etc. Alors, pour le nombre de messages, je disais tout à l'heure qu'il augmente d'année en année, et j'ai les chiffres, qui c'est pas très intéressant, mais incontestablement, ça ne cesse pas d'augmenter. Et donc, le premier semestre 2005, il y a 5228 abonnés, messages, excusez-moi, ce qui est plus que le premier semestre 2004. Donc on a un problème pour gérer l'avenir. Les besoins d'échange ne cessent d'augmenter en dépit du forum qui avait pourtant soulagé un peu ce besoin d'échanger. Pour faciliter le tri à l'arrivée, on a contraint les abonnés depuis 3 ans maintenant à mettre l'auteur ou la rubrique, littérature comparée, grammaire, à le signaler entrecroché dans l'objet du message. Donc ceux qui ont des filtres, c'est redistribué dans des boîtes. Et puis, je vais dire maintenant un petit mot de l'interface crue, qu'on peut trouver aussi désopilante que celle d'un formulaire de déclaration d'impôt, ou aussi austère que la façade du château de Cerisy, comme on voudra. Sobriété janséniste qui nous plaît bien, puisqu'on ne vend rien, on n'est pas une vitrine, on ne fait pas de publicité. Le contenu du site est éphémère en plus, annuellement il se renouvelle. Donc c'est un matériau de travail. François Collard, qui est un des pionniers, a réussi à insérer une petite binette qui se met en favori. Et puis un petit peu de couleur, a changé les polices et c'est tout. Et malgré cette rareté de la fantaisie, nous sommes sûrement une des pages d'accueil les plus conviviales de toutes les listes hébergées par le CRU, donc c'est pas peu dire. Et on ne cherche pas à faire beaucoup mieux, puisque ça reviendrait à mettre des images, et c'est pas facile parce que l'interface de CRU a changé et ne reconnaît plus toutes les balises HTML. Ça retarderait le chargement pour ceux qui ont des modems lents ou des connexions très lentes. Donc pour l'instant, on se suffit de très peu. Il y a un document qui est communiqué à tous les nouveaux abonnés qui s'appelle site mode d'emploi. Bon, on va pas le lire ensemble, il fait 8 pages, il est très aride. Mais c'est pour expliquer que chacun est sommé de se dépatouiller un petit peu tout seul. Sinon, les modérateurs y passeraient leur nuit à expliquer, à aider. Surtout ceux qui découvrent l'outil informatique. Donc, il y a une clause d'engagement qui, en fait, consiste à dire qu'on ne plagie pas les autres, qu'on reste dans un espace étanche duquel ni les fichiers ni les messages ne sortent, et l'étanchéité est dans l'autre sens aussi. On respecte les droits d'auteur, on ne scanne pas avant dépôt, il n'y a pas d'inspiration de source extérieure. L'expérience nous a montré depuis 5 ans que quand ça se produit, et ça se produit hein, 3 ou 4 fois par an, il y a des plagiaires qui essaient de se faire passer pour des figures du grand écrivain ou du grand universitaire, et rien n'est d'eux, ça se voit tout de suite. Et donc ils sont désabonnés. Ça ne lésine pas. Pourquoi ? Parce que le plaisir d'être personnel, de donner sa version d'une nouvelle façon de découvrir une œuvre, on y tient beaucoup. Alors après, liste des coordinateurs, ils vont plus vite trouver les adresses de ceux à qui ils vont envoyer leur travail, puisque ça ne porte que sur un auteur en général. Le profil, donc, c'est le modèle des renseignements à donner sur soi, sans quoi on est désabonné très vite. Donc ça, c'est pour éliminer les petits plaisantins qui n'ont jamais eu vraiment la volonté de préparer sérieusement le concours. Nom du document, format, droit, message, annonce et tableau de contribution, mot de passe, temps de connexion, pour ceux qui ont des problèmes. Duo et maintenant trio de coordination. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais on essaie de mettre un agrégatif et un agrégé dans chaque duo ou trio. D'une part parce qu'il y a des agrégés qui ne demandent que ça, d'aider. D'autre part parce que les agrégatifs connaissent souvent mieux les œuvres que les agrégés qui ont travaillé sur un autre programme. Donc les compétences se complètent assez bien. Paramétrage du navigateur à cause des versions successives d'Internet Explorer. Nature des contributions. Alors là, il y a des contraintes. On ne peut pas plus de 3 fois sur les 6 premières contributions déposer on appelle ça des travaux rapportés, des discours rapportés, parce que ce sont des résumés, des prises de notes. Il faut au moins 3 fois sur 6 qu'il y ait des leçons, ou en tout cas des plans très détaillés de leçons, d'explications, de commentaires de littérature comparée, de dissertations didactiques, sinon on est désabonné. Ou alors, on remet en effet des prises de notes et des résumés du livre, mais de son cru, mais très lisibles, qui vont faire avancer le groupe, et c'est gratuit, ça compte pas pour la contribution mensuelle. C'est la générosité. Règle de contribution pour les lettres classiques, parce qu'ils ont des épreuves très spécifiques, ils se partagent les traductions et les découpages commentés avec... Il y a une façon très codifiée de faire des remarques de grammaire et de lexique. Règle de contribution pour les lettres classiques. Déposer une photo dans le sujet de profil pour ceux qui le veulent. Passer du mode no mail au mode mail. Ça, c'est pour ceux qui ont une petite boîte. L'été, on les autorise. Mais ils s'engagent à lire les archives au retour. Conseil aux débutants en informatique. Ça, c'est pour ne pas perdre ses données. Situation par rapport à l'institution. Alors, non seulement nous sommes consentants pour nous plier à un programme d'œuvres annuelles qui change régulièrement, ou à la définition des épreuves qui sont depuis 80... Je crois que pour l'agrégation interne, c'est depuis 89, et elles ont été un petit peu modifiées en 92. Donc là, on se conforme strictement au concours. Mais une fois que ce groupe de gens qui ont voulu travailler ensemble et qui sont bien connaisseurs de ce qui les attend, et à l'écrit et à l'oral, on peut dire qu'au bout de 6 mois de modération, de messages modérés à peu près, il n'y a plus de nouveaux abonnements, et il y a une confiance qui s'est peu à peu créée, qui fait qu'on va suspendre la modération en janvier pour que les échanges soient plus denses, car même si il y a rarement plus d'une heure, deux heures ou trois heures qui s'écoulent entre l'envoi d'un message et son apparition sur la liste, malgré tout, à partir de janvier, on est à un mois de l'écrit. L'écrit prochain, c'est le 31 janvier 2006. Et il n'y a plus de messages qui risquent de déstabiliser. Et surtout, pour ceux qui vont aller à l'oral, ils vont souvent se connecter d'une cyberboutique. Ils vont avoir besoin, surtout ceux qui viennent de la Réunion, etc. Ils vont avoir besoin d'échanger en temps réel. En plus, il va y avoir bientôt les nouveaux abonnés. Il va y avoir, on a un problème à gérer à partir d'avril, mai, juin. C'est que certains sont encore en train de passer leurs épreuves. Les externes les passent plus tard. Et il faut quand même abonner les nouveaux dès le mois de mai à la parution du nouveau programme. Alors on préfère fermer des dossiers qu'on rouvrira en septembre. Et les nouveaux peuvent découvrir la teneur des échanges entre les abonnés de la session précédente. Et ils apprivoisent l'outil à Greg Lettre au contact des aînés. Au moment où la modération est rétablie, au mois de mai à peu près. Alors, je reviens à mon sujet qui est la situation par rapport à l'institution. On est assez bien perçu par l'inspection. Je vais vous donner 4 ou 5 indices. Un premier, une IPR écrit sur la liste Prof L, qui est une liste de profs de lycée, profs de français en lycée qui fait 1500 abonnés, en 25 mars 2004. Elle apprend qu'il y a de bons résultats chez Agrég Lettres pour l'admissibilité. Elle écrit « Bravo, la coopération est plus efficace que la concurrence. Bonne chance à tous. » Deuxième indice. Pendant l'entretien qui suit une épreuve orale en 2003, à la question d'un membre du jury sur sa façon de se préparer, une admise de 2003 répond « En racontant son expérience avec Agrég Lettres au jury, qui s'est montré très séduit. » Autre indice. Une modératrice écrit en novembre 2004 « Vu mon IPR pour une réunion de travail, nous en sommes venus à parler d'Agrég Lettres, il m'a dit qu'il aimerait bien y rentrer. » Quatrième indice, début novembre 2004, c'est le président du jury d'agrégation interne de Lettres modernes qui écrit à Eric Opneau, « Rien ne vous interdit au colloque de Cerisy de dire, si vous le jugez utile, que j'apprécie le travail de maillage pédagogique, didactique et littéraire que votre site assure. » Le 3 mai 2005, c'est fait. Alors donc la commission est faite. 3 mai 2005, Eric écrit aux abonnés « Vous avez les félicitations de l'un de vos présidents de jury qui m'avait demandé de l'informer des résultats de la liste. » Alors je ne sais pas si tu peux aller dans le site Acnantes si ça fonctionne, oui. Alors vous pouvez lire depuis peu dans un site académique des conseils pour ceux qui voudraient se préparer à l'agrégation, parmi lesquels il y a un lien vers notre site. Et quelques lignes là qui disent plutôt du bien. La liste la plus active et qui remporte actuellement le plus de suffrages est celle créée en 2000 par Eric Opneau. Les règles de travail et d'échange sont sérieuses et portent leurs fruits. Plus de 34% des abonnés ont été admis en 2004 et 2005. La plupart du temps inscrits à une formation extérieure, ces adeptes de la coopération et du partage représentent 12,5% de l'ensemble des agrégatifs admis. On verra que ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose en réalité. Mais c'est quand même l'indice de quelque chose qui, à mon avis, va rendre l'esprit de la liste pérenne. Alors du côté universitaire, bon, on est moins unis vers l'île de Cythère que ça, parce que il y a apparemment deux groupes de réactions des professeurs qui sont chargés d'une formation à l'agrégation. J'en oublie, alors je m'en excuse pour ceux dont je n'ai pas noté le nom au vol. Mais pour Philippe Lejeune, Jean-Michel Maulpois, Béatrice Périgot à Nice, M. Salin à Montpellier, on a des messages de ces professeurs-là qui n'ont pas hésité à rendre leur site accessible, leur cours d'agrég en ligne accessible à tous, ou qui ont dit verbalement ou par écrit « Oui, vous pouvez mettre en ligne des prises de notes sur mes cours. » Pour Béatrice Périgot, elle a envoyé par email un cours. Et il y a un encouragement à se servir de l'outil Internet pour mieux se préparer. En revanche, nous avons eu, on peut dire presque aussi souvent, mais un peu moins quand même, des indices de crispation. Des professeurs, on suppose qu'ils craignent de ne pouvoir assurer une totale exclusivité de leur production écrite auprès de leur éditeur, ou bien est-ce la crainte d'être dans une petite université qui a déjà du mal à se faire connaître. Toujours est-il que une modératrice l'année dernière avait eu des mails un peu vifs, qui lui demandait de faire attention au respect des droits d'auteur. Or, la collègue n'avait absolument pas porté atteinte aux droits d'auteur. C'est dû au fait qu'on, étant une liste privée, un site fermé, si on n'est pas abonné, on peut s'imaginer rapidement qu'il s'y passe de drôles de choses. Et c'est pas le cas. En fait, vous le voyez, nous on va vous ouvrir notre site, il n'y a rien à cacher. Donc à la fois confidentielle, courte, cette liste est privée, mystérieuse, donc cette liste est néanmoins courtisée, jalousée. On l'a même parfois présentée comme société secrète, je crois. Mais en fait, il vaudrait mieux dire caverne d'Ali Baba sans trésor. Et elle est en fait très plébiscitée par ses usagers. On sait bien que beaucoup d'agrégatifs devenus agrégés savent très bien travailler seuls, sans passer par une telle liste. C'est très bien ainsi. Mais pour ceux qui sont, on l'a vu par exemple pour des problèmes de distance géographique, de travail, de profession qui les empêchent d'être présents au cours à la faculté, le bonjour, etc. Pour d'autres, elle est irremplaçable. Alors, justement à ce propos, je vais lire quand même quelques lignes d'un message vif qui ne vise personne en particulier, mais qui prouve bien tout cela. Une certaine Nathalie, le 17 février, envoie sur la liste. Objet, j'enrage. À quoi ça sert d'être en congé formation et d'avoir le temps de suivre des cours s'il n'y a pas de cours? Ras-le-bol d'être la portion congrue, la dernière roue du carrosse. L'agrégation interne, c'est la misère. Je reviens du cours d'Ovide. La prof veut arrêter ses cours le 3 mars et reporter le reste après l'écrit des externes. Le prof qui fait cours sur Cicéron, de même, pour ne plus faire que du thème latin. Et la solidarité entre les externes et les deux seuls internes à pouvoir suivre les cours, zéro. Faut pas se leurrer, chacun défend sa croûte. L'esprit concours est bien là. Heureusement qu'il y a agrég lettres. Donc, selon la taille de l'université, selon le programme, parce que d'une année à l'autre, ce ne seront pas forcément les mêmes professeurs, selon le rapport nombre d'inscrits à l'interne et inscrits à l'externe, eh bien, il y a un traitement inégal des candidats. Voilà. Et c'est pourquoi on a des messages vifs comme ça sur le moment, parce que on a des gens qui sont prêts à s'investir et qui ne peuvent pas le faire autant qu'ils le voudraient. Et ça se termine toujours par « Heureusement qu'il y a agrég lettres », pour la bonne raison qu'on peut se connecter 24 heures sur 24, trouver des messages, des fichiers, des bibliographies, une présence, une entraide, qui est bien la preuve que l'outil informatique ici doit être utilisé. Une petite différence, parce qu'il y a aussi des listes semblables pour le CAPES interne. Il y a eu CAPES en clair, avant agrég en clair. Et il y a une différence, c'est que très majoritairement, les abonnés d'agrég lettres enseignent déjà, et souvent depuis longtemps, c'est donc pour eux un concours de promotion, alors que pour le CAPES interne, ce sont des vacataires, des gens qui ont été ballottés et qui n'ont souvent moins enseigné ou qui enseignaient moins au lycée, par exemple, ou qui découvrent tardivement leur vocation, et donc pour eux c'est une question de statut, ils jouent plus gros. L'expérience professionnelle est souvent plus courte, plus diverse, mais curieusement, ils vont avoir justement 100% de leur concours apporté sur une épreuve de didactique, à l'écrit et à l'oral. Pour l'agrégation interne, c'est, j'avais fait le calcul, 8, coef 8 sur 40, on avait dit 20% du concours est didactique, 80% c'est de la littérature. Donc entre 20% et 100%, ça change quand même la nature du concours. Je vais laisser la parole à Michel pour la suite.
J'ajouterai juste une petite chose, parce que tu parlais de notre situation par rapport à l'institution. je précise bien, ça a dû être clair pour tout le monde, mais quand même, je préfère le préciser, que nous faisons du bénévolat total, c'est-à-dire que nous sommes, nous le faisons sur notre temps libre. Hein, tout ce qui est gestion de cette liste, investissement, discussion entre propriétaires, nous ne disposons d'aucune aide de l'institution, nous n'avons aucune décharge pour faire ça, nous n'avons pas un centime de quoi que ce soit, et c'est l'hébergement par le prix qui nous permet d'exister. Et nous sommes ici à nos frais aussi d'ailleurs, puisqu'on n'est pas envoyé, on n'est pas délégué par une institution. Bon, je crois que l'heure tourne, hein, qu'il faut qu'on se dépêche. Donc, juste une petite chose sur l'épreuve de didactique, parce que même si à l'agrégation elle représente un coefficient 8, c'est-à-dire 20%, il faut quand même savoir que c'est une épreuve particulièrement difficile, dans la mesure où elle met en jeu beaucoup de notions littéraires. Elle demande à celui qui la présente de vraiment maîtriser son sujet, maîtriser l'ensemble de la littérature, bien connaître des notions. Et puis surtout, c'est une, comment dire, ça fait partie de ces épreuves à cadre, à moule, dont il faut connaître les règles, règles qui ne sont jamais explicites. On peut lire, enfin je parle d'expérience, hein, on peut lire beaucoup de rapports de jury et avoir beaucoup de mal à comprendre exactement ce qu'on attend de nous le jour de cette épreuve. Et je pense que là, un des effets de la liste, c'est justement l'échange d'expérience, le transfert d'acquis, hein, qui se transmettent justement dans la liste, qui permettent d'échanger. Tel abonné a été à un cours, a compris ça. Enfin, et c'est une discussion qui revient régulièrement. Hein, on a régulièrement des discussions sur qu'est-ce que c'est que problématiser en didactique, qu'est-ce qu'on attend de nous en didactique. Donc je vais aller assez vite. Simplement, je vais dire une petite chose, c'est qu'il y a aussi un effet retour sur l'enseignement, qui est que le fait d'être obligé de travailler un programme, bon, certains auteurs sont très connus, l'année dernière c'était Balzac, c'est un auteur, je dirais, qui va de soi dans l'étude du français dans le secondaire, mais il y a aussi des auteurs beaucoup moins connus. La préparation de l'agrégation amène aussi les enseignants à transposer finalement leur expérience d'étudiants dans leur pratique professionnelle. Je crois que c'est aussi un enrichissement pour les élèves qui suivent ces cours. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir justement travaillé sur l'illusion comique parce que c'était au programme. Et c'est une pièce que je n'aurais peut-être pas osé aborder parce que mes collègues formateurs UFM se récriaient en disant aux stagiaires « Oh, surtout pas cette œuvre-là, c'est beaucoup trop difficile, les élèves n'y comprendront rien, c'est impossible, etc. » Bon, je me suis lancée parce que je me suis dit qu'il fallait quand même faire d'une pierre deux coups. Et en fait, je peux vous assurer que mes élèves absolument adoraient l'étude de l'illusion comique et que là aussi, c'était une promotion de la littérature. Bon, je vais en venir très rapidement au palmarès, hein, puisque Jean-Claude l'a évoqué, on a un palmarès de 30%. C'est un chiffre qui ne veut rien dire, il faut le dire tout de suite. On a peut-être un bon taux de réussite, mais d'abord, on désabonne les gens qui ne travaillent pas, donc c'est évident que si on a un palmarès sur des gens qui travaillent, on a des chances d'avoir de bonnes réussites. Par ailleurs, nous ne donnons pas de cours. Les abonnés suivent des cours par ailleurs. Ils sont inscrits au CNED, ils sont inscrits au cours Sévigné, ils sont inscrits en faculté, ils sont inscrits à des formations de l'UFM. Ils ont été étudiants, ils ont un passé, donc il y a toute une série de raisons qui font que, bien évidemment, à titre personnel, bien sûr, que la liste m'a aidé. Elle m'a aidé à tenir le coup, elle m'a aidé à ne pas me décourager, elle m'a aidé à éviter ce creux de l'hiver où on se dit qu'on n'y arrivera jamais et que c'est peine perdue. Mais si je n'avais pas eu, par exemple, les cours d'Agnès Piquel sur Victor Hugo, je n'aurais pas non plus l'agrégation, il faut le reconnaître. Hein, donc, je pense que ce que nous apportons, c'est une facilitation, c'est une collaboration, c'est un encouragement. Je crois que le convivial est aussi quelque chose d'extrêmement important sur la liste. Ce n'était pas prévu à l'origine et c'est quelque chose qui est apparu dans ce travail collaboratif. On parlait tout à l'heure des difficultés de travail de certains collègues. Il y a aussi de plus en plus, par exemple, des TZR, des titulaires sur zone de remplacement qui vont facilement à prendre en charge 4 ou 5 classes différentes au cours de l'année. Donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, agrègue-lettres apporte son aide à la réussite, mais on n'est certainement pas le
premier.
Oui.
On a une abonnée qui a résumé ça par la formule à laquelle on avait pensé, Michel et moi. Un effet agrègue-lettres, c'est sans doute d'augmenter le niveau des admis à la grève. Puisque le nombre de postes, lui, il n'est pas... Alors, on n'a plus que 5 minutes, on va aller à toute vitesse. J'avais fait des calculs pour montrer qu'il y avait un volant de rotation, mais aussi un noyau de fidélité qui fait qu'on risque la consanguinité. Il ne faut pas que le nombre de ceux qui restent soit trop élevé. Alors, on a trouvé des parades pour les contenir. Le forum, on n'en parlera pas, mais il va certainement devenir privé, parce qu'il nous faisait de la publicité, justement, comme on a trop d'adhérents maintenant. C'est plus la peine. On avait fait un essai de définition, donc je vais simplement énumérer les caractéristiques les plus évidentes. C'est donc une liste de discussions privées où il faut que où la confiance règne, hein, c'est nécessaire, où il y a la gratuité financière, c'est dans les messages, hein, quand on a fait les sondages. Qui a une grande exigence de qualité. Il y a des listes qui essaient de se créer actuellement et sur lesquelles se rabattent ceux qui ont peur de nous. Transparence des décisions prises. Avant de censurer un message ou de désabonner, il y a une discussion entre les modérateurs. Le caractère privé, la co-formation, donc ça c'est les retombées sur les pratiques de classe. On conclura là-dessus, donc je saute. Mais ce sont surtout des choix éthiques. Hein. Entraide, mutualisation, partage, solidarité, désintéressement, humanisme et une grande place faite à la littérature. Alors, comme on a très peu de temps, je ne sais pas si on peut lire ensemble des fils. Là, j'aurais aimé commenter 31 messages postés en moins de 30 heures sur le sublime. Michel a compilé des discussions ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais c'est vraiment une petite conférence qui s'installe pendant 2-3 jours et qui montre qu'on avance et qu'on voit parfois plus loin que certains auteurs de livres critiques. Si tu commences,
j'ai très vite. Commenté très très rapidement quand on a préparé. Je suis allée cliquer dans les archives de messages et puis j'ai pris le mois de janvier 2005. Hein, je ne me suis pas embêtée et puis j'ai fait défiler et je me suis aperçue que en l'espace entre le 6 et le 12 janvier, il y avait eu 3 fils de discussion extrêmement riches qui sont menés en parallèle, un qui essayait de définir la notion de réalisme, puisque Balzac était au programme, et s'était ajouté une discussion sur le vraisemblable, donc vraisemblable, vraisemblance, réalisme, etc. En même temps, à quelques heures de différence, s'instaure un fil de discussion sur Louise Labbé, bon, qui commence par On patauge avec, parce que qui part, et qui va lancer une discussion qui part dans 3 directions, qui est-ce que c'est une écriture féminine ou une écriture féministe? Est-ce qu'on peut parler de jeu lyrique chez Louise Labbé? Et le troisième axe de ce même fil de discussion était de s'interroger sur, ça y est, j'ai un trou, c'est évident,
le lyrisme.
Non, il y avait le lyrisme. Sur la question de est-ce qu'il y a plagiat, parodie, ah oui, imitation ou imitrition. Ouais. Bon, et tout ça est mené en 3 jours. On n'a pas le temps de vous montrer, c'est intéressant, c'est de voir qu'il y a des messages qui sont postés à 7h du matin, qu'il y en a qui sont postés entre 4h et 6h, parce qu'entre 4h et 6h, on rentre des cours et puis on a emmené les enfants à la danse, donc on ira les chercher après. Et il y a des messages qui sont postés de l'ensemble du monde, il y en a un qui vient d'Inde, il y en a un qui vient de la Martinique, enfin bon, c'est assez intéressant. Et je trouve que ce qui est intéressant quand on étudie ce fil en particulier, c'est de voir à quel point très rapidement s'affinent des notions et à quel point très vite on arrive à une discussion de niveau très élevé qu'on a rarement dans les cours, quand on assiste à des cours universitaires parce qu'on est pris par le temps et que là il y a une mise en commun et on voit bien une réflexion qui s'affine et l'émergence d'une pensée de très haut niveau. Et puis il y avait un troisième fil en parallèle qui était porté aussi toujours sur Louise Labbé et qui était sur la question de la compréhension et de la traduction, enfin de la transposition du texte du XVIe siècle en français contemporain et avec toute une discussion sur la grammaire. Ça, c'était pour donner une idée de la richesse des échanges. Bon, on va manquer de temps, donc vous les retrouverez dans les annales, hein, on mettra une copie des fils de discussion et vous pourrez les consulter à ce moment-là.
Alors la dernière partie, on l'avait intitulée, vous avez vu, une démarche contagieuse. D'abord, bien sûr, il y a ceux qui ne veulent pas s'en aller. Alors, ils coordonnent un auteur. On a une multitude de messages qui crient aux bienfaits apportés par cette espèce de groupe fermé, mais c'est pour la bonne cause, parce que ne sont finalement retenus que ceux qui sont très motivés, mais la motivation peut s'épuiser. Et d'être lu, d'avoir des écrits socialisés, ça stimule, ça maintient l'état de mobilisation. Ensuite, cette démarche est contagieuse, puisque le CNED a essayé de créer l'année dernière une liste semblable, mais elle a beaucoup de mal à démarrer. À Greg Enclair, qui était plus jeune, qui abonnait surtout des externes, vient de fermer. Alors on a des colonnes de réfugiés qui attendent à la porte. Et puis, un indice qui ne trompe pas, c'est que même lorsque quelqu'un n'y connaissait rien du tout en informatique, au bout d'un an sur Agreglet, il sait faire un sommaire en HTML, il sait expliquer aux autres. Et alors là, j'ai une formule un peu amusante de Mélina, qui est restée un an, qui est maintenant modératrice et qui a été admise première en plus. La littérature a la particularité de s'adapter à chaque nouvelle forme de société sans jamais pouvoir se séparer de ses racines. Et donc, Agreglettre, c'est une des preuves de l'inscription évidente du rat de bibliothèque dans le monde moderne des technologies nouvelles. Alors, la contagion, c'est la création de dialettres. Je ne sais pas si tu vas pouvoir. C'est le même esprit. On dépose des contributions obligatoirement à un rythme donné. C'est fermé, c'est privé. On s'entraide. Il est souvent composé d'anciens d'Agreglet, mais pas seulement. Il y a un parrainage qui permet d'adopter des nouveaux, adoption plénière, et avec des contraintes de classement aussi, de nom de fichiers, de circulation de l'information. Et il y a même un groupe travail agrégation sur Weblet qui essaie de naître actuellement. Alors un mot pour, que j'ai intitulé « Et les élèves ». C'est la conclusion. C'est vraiment la conclusion. Apprendre à apprendre, c'est la même question chez les profs et chez les élèves et chez quelqu'un qui s'abonne à Agreglet. Et la réponse est souvent, on apprend en faisant soi-même l'expérience des choses et non en restituant des commentaires déjà consacrés. Cette conception inventive et vivante de l'appréhension des œuvres littéraires tourne le dos au dogme et évite les effets secondaires comme l'infantilisation, la conception désincarnée de la création littéraire, le technicisme, etc. Alors que la littérature, évidemment, appelle des lectures renouvelées, des confrontations de lecteurs, et c'est ce que fait Agreglet. Dès lors, on peut penser que l'expérience vécue une année sur ce site et cette liste a un effet d'encouragement en classe. Lorsque nous avons des élèves à qui on peut proposer de créer un CD-ROM ou un site, ou à qui on propose des activités multimédia ou une correspondance scolaire électronique, etc. Et comme deux, au moins, oh non plus que ça, 4 ou 5 d'entre nous, des anciens, sont actuellement invités à collaborer à des manuels, enfin à des livres, aidant à la préparation au concours Capacité à Grec, je pense qu'on en dira un petit mot de cet esprit qui se communiquent jusque dans les classes de secondaire. Donc je dirais, avant de laisser Michel conclure, que notre refus de l'archivage pour l'archivage, notre refus de l'effet vitrine, du consumérisme, notre vigilance vis-à-vis des droits d'auteur, notre indépendance du fait que nous sommes bénévoles, cette mise en commun des expériences ressemble à des chuchotements studieux dans une bibliothèque, dans le compagnonnage des écrivains, la seule compagnie qui vaille pour nous.
Oui, et puis donc un petit mot d'Éric Hopneau qui ne pouvait pas être parmi nous et donc qui nous avait envoyé un message disant qu'Agreglet est peut-être une utopie, un lieu sans lieu, à l'écart de toute institution, de tout système commercial, une communauté d'enseignants partageant la même éthique mutualiste, le même principe d'entraide, visant tous le même objectif, vécu paradoxalement comme une compétition avec soi-même et non contre les autres, animé par un même désir d'échanger à partir de la littérature. Un lieu imaginaire qui est peut-être destiné à la fois à se régénérer et à disparaître. Et puis enfin, une utopie sans dogme, sans idéal et sans mythe, une conférence permanente et annuelle, une aventure qui contribue à changer les méthodes de travail et où chacun, qu'il soit agrégé ou non, admissible ou non, aligné ou non, se retrouve enrichi par les autres, quelque chose d'irrécupérable pour l'institution et qui s'appellerait donc l'esprit de la liste.
Alors comme c'est notre bébé, on vous met Adèle Carapino qui est née le lendemain de la dernière épreuve orale de sa maman qui a été admise première à la Grec l'année dernière.
Non, non, ça c'est notre, oui, c'est notre premier bébé à être aigle-être. C'est né vraiment.
Beaucoup, pardon de vous avoir pressé, mais vous veniez nous expliquer la nécessité d'une modération ferme. Alors, je vais donner la parole à Alkmaar et puis Serge ensuite. Oui, Alkmaar.
Je m'excuse, je ne connais pas tellement le système d'agrégation, mais franchement, ce que vous faites, c'est très méritoire. Vraiment. Et je me posais la question. Et je ne suis pas premier, mais je fais partie de l'agrégation toutes les années en France et ailleurs.
Alors, il y a à peu près 120 reçus et on peut dire qu'il y a à peu près, je crois, un peu plus de 1200 qui se présentent réellement le jour du concours. Et on peut dire qu'au départ, il y a peut-être 2000 personnes qui ont envie de la passer.
2000,
non, mais il y en a beaucoup moins qui s'inscrivent, qui sont présents, hein, déjà qui sont présents le jour des épreuves.
Vous avez récemment, c'était 81 abonnés, c'est ça?
Oui, aujourd'hui.
Les autres, ont-ils accès au contenu de la liste?
Non, c'est vraiment une liste fermée.
C'est-à-dire, si jamais vous avez un succès énorme... Oui. Si 2000 décident de s'abonner, alors c'est... votre succès,
on est incapable de faire face à trop de monde. D'ailleurs, justement, le fait qu'on soit 80, en fait, sur les 80, il y a une soixantaine d'agrégés, donc il y a 60 agrégatifs, hein, personnes qui préparent, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très lourd, ça fait un rythme de...
Si on avait un succès, 500 000 abonnés décident de s'abonner, ce sera un chèque pour...
C'est une vraie question, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter en ce moment. On se demande s'il ne vaudrait pas la peine d'essayer d'essaimer, finalement, à ce moment-là, de créer plusieurs groupes, de faire en sorte qu'il y ait quatre groupes, trois groupes de 50 personnes. Mais ça suppose qu'on ait chacun, que chaque groupe ait assez de modérateurs.
On peut pas ouvrir les contenus, même les fichiers. De critiques, d'informations.
Le problème, je vais répondre aussi à ça, ça c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que si ça fonctionne, notre système, c'est justement parce qu'il est fermé. Parce que sur la liste agrég-lettres, on a le droit d'écrire une question qui s'intitule d'ailleurs souvent « question bête ». Je ne sais pas telle chose. On a le droit de dire « je ne sais pas, je ne comprends pas ». Ça n'est pas vrai sur toutes les listes. On connaît tous ici des listes littéraires. Sur lesquels oser poser une question un petit peu profane fait qu'on est traité par le mépris. Je vais avoir la charité de ne pas citer ces listes-là, mais je pense qu'on en connaît les uns et les autres, où finalement il n'y a plus aucun trafic sur ces listes. Une des raisons pour lesquelles ça fonctionne, c'est justement parce que les gens qui sont sur cette liste se sentent à l'abri des regards dépréciatifs. Ils sont entre pairs, et entre pairs, c'est ce que dit d'ailleurs le premier message que j'avais montré, c'est ils commencent par compagnons de galère. Hein. On rame tous ensemble et on essaye de comprendre quelque chose.
Cela aurait un effet magnifique hein, pour, disons, sur la possibilité de poser des questions bêtes. Alors
c'est vrai que
c'est très bien, ça pourra changer même la mise en scène hypocrite de pas mal d'enseignants universitaires.
On vous pose la question, c'est-à-dire que. Quelle université est prête à rémunérer des enseignants qui copiloteraient, co-coordonneraient un auteur avec un membre du groupe afin de nous aider à vérifier la bonne teneur des contenus déposés? Eh bien, on va dire non, aucune université aujourd'hui n'est assez riche pour copiloter avec nous ça. Malheureusement.
Il terminerait parce que tout à l'heure, Serge voulait.
Oui, il m'avait dit que c'était fasciné par une notion communautaire. C'est tout ça. Il paraît paradoxal. C'est quand même un concours, un agrégatif. Alors, c'est quand même un agrégatif que des marges. Alors, ma question, tu as répondu en grande partie, Michel, c'est de savoir comment vous avez évalué la taille idéale de la liste. Effectivement, s'il y avait 300 membres, il serait rapidement sorti de ce qu'on appelle le syndrome de saturation cognitive. C'était ma question. Puis sinon, une remarque, je me demande si justement, on ne peut pas imaginer à terme un effet rétroactif de la liste sur le concours lui-même, je veux dire l'esprit de la liste, et sur l'esprit même du concours, et peut-être une modification à terme du type d'épreuve.
Oui, je compléterai.
Bon, je vais juste dire une chose, c'est que on est dans le cas de ce qu'appelle ce Lévi-Strauss appelle le bricolage. On invente au fur et à mesure, on ajuste, on réajuste. Quand on dit la taille idéale, c'est une constatation vraiment empirique. Bon, bien sûr, je ne suis pas totalement novice en matière de formation à distance, puisque nous avons travaillé ensemble à l'Université de Compiègne sur ce domaine. Et c'est vrai que le petit peu d'expérience que j'ai en ce domaine, j'ai aussi apporté au fonctionnement de cette liste. Mais c'est vrai que je crois qu'en matière de formation à distance, il est très difficile de gérer des groupes importants. Hein, je crois que tous les chercheurs en formation à distance s'accordent là-dessus. Après, sur l'effet rétroactif sur le concours, je vais te laisser la parole.
Alors, moi je suis persuadé qu'il y a actuellement, en partie, un effet sur la formation. Puisque le CNED et Weblettres lancent des listes de diffusion, tout le monde s'y met peu à peu. Mais ça ne marche pas très bien, les listes institutionnelles. On sait que ça ne marche pas très bien, les listes institutionnelles où trop d'inspecteurs mettent leur nez, etc. Par rapport à des candidats qui s'exposent en travaillant beaucoup. Donc je ne sais pas où on va. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des formules privées, fermées, internes à une université ou un groupe d'universités. On verra. Des systèmes mixtes, c'est-à-dire en partie en ligne, en partie sur papier, ou CD-ROM, disquette, je ne sais pas. Quelle était ta deuxième question? Parce que j'avais quelque chose à dire.
Non, c'est ça, c'était sur l'effet rétroactif.
Alors la première.
La première, elle a répondu, Michel, sur l'évaluation de la taille idéale de la liste.
Oui, alors, je voulais compléter quand même là-dessus, parce que si ça se trouve, on peut quand même se développer encore un petit peu, puisqu'on a trouvé des procédés, par exemple le filtre, mettre l'objet entre crochets. Les classiques ont un système pour éliminer les sujets de littérature comparée qui ne les concernent pas. Donc, en raffinant sur la hiérarchie qui commence à naître, c'est une hiérarchie horizontale, hein, mais une arborescence entre modérateur et coordinateur, peut-être qu'on peut quand même encore croître un petit peu. Et puis, il y a une limite supérieure, de toute façon, je ne sais pas où elle est, mais il y aura des agrégatifs qui ne passeront pas par là, qui n'ont pas besoin de nous.
Alors justement, là, je voudrais interpeller Emmanuel, son agrégatif dans la salle, parce que ça t'a donné envie de t'inscrire sur les lettres, parce que tu aurais bien un bénéfice.
Oui, je pense que c'est une collaboration pour permettre de travailler un petit peu dans le travail en classe préparatoire et d'échanger autour des sujets de thèmes.
Oui, ben justement, j'apprécie beaucoup cet esprit mutualiste, le pari mutuel agrégatif, quelque chose comme ça, c'est très bien. Ce qui manque souvent d'ailleurs, quand vous avez fait des évaluations, j'ai trouvé que vous aviez une façon très modérée, très modeste de vous auto-évaluer en quelque sorte, parce que c'est bien évident que dans ce style de concours, c'est l'acharnement, la volonté de l'individu, et c'est bien que tous les chiffres sont toujours farfelus. Ils ont d'ailleurs un objectif, si on les maintient, si on continue à dire il y a 2000 candidats pour le concours, c'est un effet dissuasif volontaire. Hein, dès le départ, on dit ah, qu'est-ce que vous allez faire? C'est le plus grand concours, le plus important, parce que 2000, vous voyez, regardez, et puis quand on est 40 à être reçu, on est des villes de la France, puisque on est 40 sur 2000. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu 2000 sérieux candidats. Voilà, c'est à peu près ça. Mais alors, la question que je voulais poser, c'est à propos justement de cet esprit de préparation, grandes écoles, enfin, d'une classe préparatoire, etc. Quand les individus mettent une leçon, il y a critique, autocritique, etc. Oui. Mais quand vous avez parlé de ces problèmes de questions, est-ce que ce sont les anciens qui répondent à des questions insolubles, de savoir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment je ne sais pas, où ce serait plus facile d'avoir un des enseignants qui prépare la grègue, qui sait combien de...
On peut dire... C'est une bonne question. Alors, soit ce sont les coordonnateurs qui sont devenus coordonnateurs parce qu'ils connaissent cet auteur-là et ils peuvent répondre déjà. Soit c'est plus sur le concours, plus il faut avoir un peu d'expérience. Et alors les modérateurs, les propriétaires ceux qui sont déjà agrégés, parfois, peuvent répondre aussi. Soit personne ne sait.
Une question annexe, qui est, dans les contributions, la gestion du temps. Moi, ce que je sais de l'agrégation, j'en sais pas grand-chose, mais que c'est comme beaucoup d'autres activités humaines, c'est savoir gérer son temps. Oui. Est-ce que c'est inclus dans votre, dans l'ensemble de votre
gestion? Je vais répondre sur les deux. Moi, j'ai... Peut-être l'habitude de la pédagogie fait que quand une question est débattue, j'ai tendance à laisser les abonnés qui préparent l'agrégation se dépatouiller un petit peu. Et puis, c'est le cas l'autre jour sur la question de la didactique, j'ai fini par intervenir en disant « Bon, bah, excusez-moi, je vais mettre mon grain de sel parce que... » Et puis donc, j'ai donné un certain nombre d'explications qui ont permis de relancer la discussion et peut-être un petit peu, je pense, de recentrer. Et puis, sur les questions très pratiques du moule, du code de l'épreuve, là, oui, c'est très important que des anciens donnent des conseils très précis et expliquent. Et on donne, par exemple, je sais qu'on a tous ceux qui sont restés sur la liste après avoir eu le concours, on a donné nos leçons, par exemple, ou nos explications de texte, puisqu'on garde nos brouillons. Hein, on les a transmis, effectivement, à la liste. Moi, je sais que, bah, par exemple, ma leçon cinéma, elle est toujours dans les archives de la liste. Et, oui, ça, c'est vraiment un transfert d'expérience.
Enfin, dernière question, puisqu'on a parlé de mutualisation, d'autogestion, il y a quand même un caractère autogestionnaire là-dedans.
Oui.
Qu'est-ce qui pousse les anciens, ceux qui ont réussi à se maintenir, et ça fait combien d'années que vous
Alors.
Toi, tu es le premier.
Bon, alors, j'ai plusieurs réponses. La première, elle est très très répandue. J'ai moi-même passé le concours. C'est très important d'avoir préparé le concours pour mesurer la somme d'efforts que ça représente. Et beaucoup de ceux qui ont passé l'agrégation interne gardent ce souvenir d'avoir beaucoup beaucoup travaillé et d'une façon qui a beaucoup porté ses fruits. Donc on a envie d'en faire profiter les autres. Et dans mon cas, je fais partie de quelques-uns qui ont eu, moi ça fait donc plus de 10 ans, Internet dans sa forme actuelle n'existait pas vraiment, c'était imminent mais ça n'existait pas, puisque moi je me souviens avoir proposé des disquettes et pleines de bourrées de leçons et d'explications sur Voltaire, Hugo, Dubélé qui étaient au programme, et ça marchait pas. Donc j'ai été frustré. Et j'ai vraiment, chacun a des personnalités, il y en a d'autres qui vont réagir autrement, mais moi je fais partie d'un, je ne suis pas le seul, de ceux qui ne veulent pas que ça arrive à d'autres. La deuxième raison, c'est qu'on ne peut plus partir. Il y a des liens qui se créent. Alors, c'est compliqué, et c'est même au cas par cas. Il se trouve que dans le même temps, depuis 5 ans et demi, J'ai eu la chance de pouvoir animer des journées IUFM de préparation à l'épreuve de didactique, du CAPES et de l'agrégation, pendant la même période donc, 6 ans, et j'ai tout de suite mis une cloison étanche entre les deux. Là, je pense que n'importe quel abonné à Greglette sait que je n'ai jamais fait part de travaux que je corrigeais par ailleurs et que rien d'agréglette n'est sorti. Mais... quand même, la connaissance des exercices codifiés, des programmes d'œuvres, des démarches, moi, j'étais enrichi des deux côtés, comme ça. Je pouvais faire profiter les uns les autres. Et je ne suis pas le seul. Eric Opno a fait des manuels de didactique, il est formateur à l'UFM de Versailles. Toi, ça te fait des formations. C'est vraiment pas un hasard. Ensuite, les uns et les autres, on a toujours 2 ou 3 heures. On est chargé de cours à la fac depuis 7 ou 8 ans. On pose des questions ressemblantes. Donc, ça, même s'il y a des cloisons à l'intérieur mentalement, on profite, l'expérience des uns profite aux autres toujours. Alors, on n'a pas le cœur de laisser tomber les autres. Ça, c'est ma deuxième réponse. Mais Michel en a peut-être d'autres.
Oui, parce que moi, je me suis d'abord abonnée à la liste pour préparer le concours. C'est-à-dire que pour moi, elle a d'abord été très utilitaire, la liste. Et j'avoue que les premiers contacts... c'était très rugueux. Et puis j'avais l'impression d'un carcan et de me dire... bon. Et puis petit à petit, il y a des liens qui se créent, des amitiés. Je crois qu'il y a un côté humain et chaleureux dans la liste qui n'est vraiment pas négligeable du tout. Donc, quand j'ai obtenu le concours, ben, je suis restée sur la liste. Ça me paraissait normal de rester pour finalement aider à mon tour. Et puis, je dirais qu'il y a une autre raison plus égoïste, c'est que c'est très stimulant intellectuellement et que quand on est professeur en lycée, on n'a pas toujours l'occasion de contact, de réflexion. Moi, ça m'oblige à relire des auteurs au programme de l'agrégation. Je participe aux échanges. Enfin bon, ça me fait aussi, c'est aussi une bouffée d'oxygène littéraire pour moi.
Je vais donner la parole à Thomas et je propose après de s'arrêter là pour garder 10 minutes avant d'aller déjeuner.
Non, mais je voulais vite faire vite d'abord quelques idées. Vous avez bien montré comment c'est très utile et très efficace et plus. Mes deux questions à venir, c'est la violence avec laquelle vous insistez sur le non-anonymat. Et je peux m'imaginer en tant que candidat que je voudrais prendre un pseudonyme et j'aurais peur que mon nom soit mis devant les évaluateurs de données. Ces questions-là, pourquoi vous ne permettez pas des pseudonymes autres? La deuxième question va être très brève, c'est la question du format que j'aime bien le fait que vous tenez sur RTF, etc. Mais quand j'ai vu ces quinzaines de fenêtres qui s'ouvraient sur Word, pourquoi vous n'essayez pas plutôt d'avoir une simplicité, d'avoir tout simplement le texte dans la liste même et pas tous ces fichiers attachés? Voilà.
Bon, je peux répondre à la première facilement. Hein. Le non-anonymat, c'est le concours. Les résultats sur PubliNet sont publics. On a même des problèmes des fois avec le nom de jeune fille et ça n'est absolument pas une indiscrétion, une intrusion dans la vie privée puisque on ne demande pas, c'est pas obligatoire de mettre son adresse postale, son âge, etc. On met son nom, son prénom, son numéro de téléphone comme on le fait pour s'inscrire au concours auprès du ministère
et son lieu d'exercice.
Parce que on peut être externe et simplement suivre les cours d'une fac, ou bien être interne et enseigner dans tel lycée. Et là, c'est géographique, c'est-à-dire que à Montpellier cette année, il y en a trois qui peuvent se voir, ils habitent les uns près des autres. Mais c'est tout, ils font ce qu'ils veulent après. Et ça, pourquoi pour nous? Parce que on a eu la première année des petits rigolos avec des pseudos qui ne remplissaient même pas les conditions pour s'inscrire au concours. Et ils nous font perdre notre temps. C'est ça la raison.
On a eu aussi.
Il y a pas eu un président de jury là, dans
votre liste ? Non, il est venu sur le forum. Ah, oui. Sur le forum. Le forum est public, donc effectivement, il y a eu un président de jury sur le forum. Par contre, sur la liste, la deuxième année, je m'en souviens, parce que je me suis inscrite la deuxième année, il y a eu effectivement, disons, au moins une personne malveillante. Et ça peut rapidement, complètement casser la liste parce que les commentaires moqueurs, ironiques, désagréables au sujet des contributions, et c'est tellement facile quand on est caché derrière un pseudonyme. Par ailleurs, je dis bien, la liste est fermée. Hein. Nous, on vous a ouvert les portes, mais si vous allez sur le site AgraGlet, vous ne rentrerez pas, vous resterez sur le portail. Donc à partir du moment où on est entre soi, je crois qu'il est là logique de donner son nom.
Je réponds à la deuxième aussi. Il y a des fichiers qui font 20 pages. Une leçon d'agrég de 6 heures, ça fait 20 pages. Et enfin, de 50 minutes, hein, préparer. Il y a des fichiers audio, il y a les JAL, journée agrégation en ligne. Il y a des documents sonores diffusés par France Culture pour l'agrégation. Et nous, on les laisse pas pendant des semaines d'ailleurs parce qu'on a droit qu'à 350 mégas. Mais tu vois, coller tout en message, c'est pas souhaitable. Parce que l'intérêt, c'est de pouvoir les réexploiter de façon différée à plusieurs reprises. Et l'archivage annuel est très bien. Au bout d'un an, la plupart des fichiers disparaissent pour faire place au nouveau programme. Mais on tient quand même à avoir un site.
Je vais ajouter juste une petite chose sur le format RTF qui est choisi. C'est aussi la possibilité pour l'abonné de prendre dans son traitement de texte la contribution de l'autre et d'ajouter ses commentaires et de renvoyer. Et il y a tout un échange qui se fait à l'intérieur de la liste. Alors non, là pas pour toute la liste, mais de personne à personne, où Claire Marie qui va relire la contribution de Anne et qui va envoyer la contribution avec ses commentaires. Donc le format effectivement là choisi dans le traitement de texte est beaucoup plus pratique et permet ce genre de choses.
Bien, écoutez, encore merci. On va s'en tenir. Thank you.
J'active, j'y pense en